Alors, je l'ai promis en semaine que nous allons parler sur un thème intéressant. C'est le fruit d'une méditation personnelle ces jours-ci. Et je me posais cette question, comment rebâtir la foi après la guerre? Et c'est le thème de ce matin. Comment rebâtir la foi après la guerre? Comment rebâtir la foi après la guerre? Alléluia. Et vous savez, aujourd'hui, la vie est très compliquée. Nous traversons d'énormes chocs au quotidien, d'énormes épreuves au quotidien. Et après, on a toujours cette parole qui revient toujours, où des gens viennent à nous et nous disent, ah, homme de Dieu, je ne sais pas, ma foi est descendue, c'est comme si je n'arrive plus à prier, je ne sens plus rien, vraiment, je ne sais plus ce qui se passe. Et nous sommes comme ça poussés à vous encourager. Et parfois, vous ne connaissez pas les tempêtes aussi qui soufflent dans nos vies. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à nous fortifier. Et à trouver d'autres pasteurs qui nous fortifient aussi. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on lise un texte dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 8. Luc, chapitre 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8, si vous y êtes, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole du Seigneur? Je vais lire au nom de Jésus. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Alors, une question importante que Jésus lui-même pose. Alléluia. Et lorsque Jésus pose une question, sachez qu'il a la réponse. Il a la réponse parce qu'il est Dieu. C'est pas ça? Et il pose la question à notre attention. Alors, quand je vais venir, est-ce que tu auras encore la foi? Est-ce que tu auras encore la foi? Alléluia. Dis à ton voisin. Quand Jésus va revenir, est-ce que tu auras encore la foi? Pose la question encore à ton voisin. Lorsque Jésus reviendra, est-ce que tu seras même encore dans la foi? Alléluia. Alors, cette question qui est posée suggère que avant que Jésus n'arrive, notre foi sera confrontée à beaucoup de difficultés. Notre foi sera bombardée par les forces des ténèbres. Notre foi sera bombardée par les difficultés, par les conflits, par les oppositions. En d'autres termes, notre foi ne sera pas en congé. Alors, ce sera compliqué de dire j'ai la foi. Ce sera compliqué de dire je marche dans la foi. Parce que ce ne sera plus un vain mot. Il faudra que ce soit une réalité dans ta vie de tous les jours. Et selon la révélation de cette parole, la plupart des saints qui seront enlevés seront ceux qui seront pleins de foi et non de doute. Alléluia. Ceux qui seront enlevés seront de ceux-là dont le Seigneur aura trouvé de la foi. En d'autres termes, si tu n'as pas de foi, en ce moment-là, tu perdras l'écoute de la trompette pour être enlevé. Alléluia. En d'autres termes, ta foi est capitale pour que tu saisisses même le retour du Seigneur. Alléluia. Jésus pose donc cette question cruciale. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cela implique que Jésus recherche des personnes pleines de foi et non de doute. Écoutez. La foi sera la denrée que Jésus cherchera à trouver chez les hommes lorsqu'il viendra. Et non la prière, et non le jeûne, et non la religion. Et donc l'Écriture dit catégoriquement, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est pourquoi j'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin. Tout ce qui attaque et endommage ta foi, visant à te faire rater l'enlèvement, visant à te faire rater ta destinée, je commande que cela perde sa force au nom de Jésus. Je commande que cela perde sa force au nom de Jésus. Tout ce qui affecte ta en ce moment, toute forme de tristesse, toute forme de découragement, toute forme de torpeur, toute forme d'affaiblissement, je commande que cela perde sa force au nom de Jésus. Que cela perde sa force au nom de Jésus. Que cela perde sa force au nom de Jésus. Je prophétise que tout ce qui est utilisé comme arme pour ruiner ta foi est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Sois fortifié dans ta foi. Assois-toi, bien-aimé. Voyez? C'est très important. Alors, dans une autre version, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Je vous ai plusieurs fois dit, la foi est le langage de Dieu. La foi est le langage de Dieu. La foi est le patois de Dieu, si vous voulez qu'on le parle simplement. Alors, Dieu ne connaît pas le français. Dieu ne connaît pas l'anglais, Dieu ne connaît pas le chinois. Il connaît la foi. Chaque fois qu'il arrive auprès d'un homme, la foi traduit à Dieu ce que tu es en train de dire. Alléluia. Alors tu peux prier en anglais. Certains gens disent non, quand on prie en anglais, il y a plus d'onction. C'est faux. Dieu lit la foi dans ce que tu dis. Quand tu arrives dans mon village, une maman prie en patois, en bandjoun, la gloire de Dieu descend. Quand tu arrives à Baganté, un jour nous prêchons l'évangile dans un village, dans un quartier à Bangoulap, une grand-mère prie le patois, elle a commencé à élever la prière. Frère, l'onction est descendue. Mais Dieu a écouté quoi? La foi de cette femme. Alors les langues que nous avons, c'est le fruit de la désobéissance. Quelqu'un n'a pas dit amen. En réalité, Dieu avait donné qu'une seule langue. Et cette langue, c'était la foi. C'était la foi. La seule chose qui réunit les enfants de Dieu sur la terre, c'est la foi. Le seul élément sur lequel nous avons une compréhension commune, c'est la foi. Il le dit, sans la foi, nul ne peut lui être. Ça veut dire, si tu veux être agréable à Dieu, il faut que tu pries. Pour être agréable à Dieu, il faut que tu jeûnes. Pour être agréable à Dieu, est-ce qu'il faut apporter les offrandes? Pour être agréable à Dieu, est-ce qu'il faut laver la maison du pasteur? Pour être agréable à Dieu, est-ce que tu dois bâtir la maison du pasteur? Pour être agréable à Dieu, est-ce que tu dois payer le billet d'avion au pasteur? Pour être agréable, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas moi, c'est les Écritures. Ça veut dire que la foi est un parfum de bonne odeur qui agrémente notre point de prière. Chaque fois que tu lèves ta prière, il y a cette bonne odeur. Lorsque vous allez dans le livre de Lévitique, vous voyez comme les sacrificateurs faisaient l'offrande. Dieu, même quand Noé a offert l'offrande, Dieu est descendu, il a humé l'odeur. L'odeur là, c'est la foi. Quand Dieu vient, il hume ta prière. Il sent dedans la colère. Il sent dedans l'envie. Il sent dedans la rancune. Il dit, c'est pourquoi Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que chaque fois que Dieu vient devant ton point de prière, il hume. Il ne sent que l'amertume. Qu'est-ce que tu as? Tous ceux qui ont été grands avec Dieu étaient des hommes de foi. Et il ne sera pas le contraire avec nous. C'est le même principe qui est appliqué à chacune de nos vies. Alléluia. Bien-aimés. Nous parlons de l'enlèvement. Regardez, Jésus dit quand il viendra. Ça veut dire le temps de l'enlèvement. Les signes sont devant de nous. Chaque jour, nous voyons les signes se précipiter devant nous. Nous voyons des guerres. Nous voyons des conflits. Nous voyons des nations s'élever contre d'autres nations. Et nous croyons que nous avons du temps. C'est le moment de travailler ta foi. C'est le moment de revoir ta foi. C'est le moment de revoir la qualité de ta foi. Je vous ai dit, quand Jésus viendra, il y aura certaines sœurs en Christ que le jour-là, enfin, leur fiancé va venir les doter. Je vous ai dit que le jour de l'enlèvement, certains frères, enfin, ils auront le visa pour voyager. Je vous ai dit que c'est le jour de l'enlèvement, certains frères, le jour-là, enfin, ils auront trouvé la sœur de leur vie. Il y a des gens. Et le jour-là, tu devras choisir entre fiancé et parti. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a un problème avec les pentecôtistes aujourd'hui. Ils prient pour que Dieu vienne le plus loin possible pour qu'ils puissent se marier. C'est quoi ça? Seigneur, ne viens pas maintenant. Il faut aussi que moi-même je goûte le mariage. Seigneur, ne viens pas maintenant. Moi-même, je dois mettre mes pieds en Europe. Seigneur, ne viens pas maintenant. Jésus nous dit de déclarer Maranatha. Maranatha! Jésus revient bientôt. Et c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Parce que nous poursuivons des intérêts étranges. Oh Seigneur, ne viens pas maintenant. Je dois enfin avoir mes triplés. Je dois avoir enfin mes triplés. Mais ça. Si je meurs, on va mettre le caillou dans ma main. Le caillou là, tu n'es pas pour au ciel avec, hein? Tu n'es pas pour au ciel avec. Ça reste dans ta tombe, ça se décompose. Et toi, tu vas au ciel. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi un bon amen, je continue. Alléluia. La Bible nous parle de l'enlèvement. Et dans certaines versions, au lieu de l'enlèvement, on a remplacé par le mot ravissement. Il se peut que vous ne voyez pas directement le mot enlèvement dans votre Bible, mais il existe sous une forme codée en tant que ravi. L'Écriture dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17, « Puis nous, les vivants qui demeurons, nous serons ravis, nous serons enlevés ensemble avec lui dans les nuées à la rencontre du Seigneur, en l'air, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ne laissez personne vous tromper en vous disant qu'il n'y aura rien de tel que l'enlèvement. Ne tombez jamais dans la croyance que le ciel et l'enfer ne sont pas réels. Le ciel est réel, l'enfer est réel. Pour mémoire, il existe une idée reçue selon laquelle nous ne nous reconnaîtrons pas lors de l'enlèvement. C'est faux. Frère, un homme avait dit que ma femme, la Bible dit que jusqu'à la mort nous sépare. Jusqu'à la mort, le pasteur dit jusqu'à la mort vous sépare. Quand on arrivera là-bas, chacun se cherche. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un que lorsque nous serons au ciel, on va savoir qui était la femme de qui. Hein? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Tu vas savoir, moi je vais voir maman, je vais dire c'était ma femme, je saurai. Amen. Sauf que là-bas, on ne sera plus dans cette notion humaine. Mais on sera dans une notion d'un corps glorifié, mandaté pour célébrer Dieu. Mais je saurai que sur la terre, j'étais avec elle. La preuve, regardez l'histoire de Lazare et du pauvre et du riche. Le riche est allé en enfer. Il s'est souvenu de Lazare. Il a même dit à Abraham, envoie Lazare. Pourquoi il dit envoie Lazare? Parce qu'il avait l'habitude de l'envoyer sur la terre. Frère, il y a des gens qui t'utilisaient sur la terre que vous allez vous retrouver aussi. Va quoi qui va conduire à t'utiliser là-bas? Dis arrière de moi, Satan. Alléluia. Vous voyez, Luc 16, le verset 22 à 25. Il vit de loin Abraham. Il avait chaud, la chaleur. Il crie Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare. Eh, mon Dieu, Lazare, tu as souffert. Je comprends pourquoi tu étais que dans le sein. Alléluia. Pour le repos. Il dit, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je prie pour toi. Que rien ne te fasse manquer le ciel au nom de Jésus. Que rien ne te fasse manquer le ciel au nom de Jésus. Que rien ne te fasse manquer le ciel au nom de Jésus. Que rien n'ait de valeur dans ta vie plus que le ciel au nom de Jésus. Même
même ce visa, tu ne dis plus amen.
Sept signes précis de l'enlèvement de la fin des temps. Bien aimé, sept signes, je vous les donne rapidement. À un moment donné, les disciples de Jésus, lors d'une discussion avec le maître, lui ont demandé quels seraient les signes de la fin des temps. Dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12. Et Jésus va énumérer les signes suivants que nous voyons déjà dans le monde aujourd'hui. L'un des signes qu'il va annoncer sera l'apparition de faux Christ. Alléluia. Chaque jour sur la terre, s'il y a un nouveau Jésus. Il y a trois Jésus en Côte d'Ivoire. Trois, ils se disputent. Il y a une femme, il y a deux hommes. Au Bénin, il y a deux. Il y a une femme, il y a un homme. Elle est dit, elle est Dieu Saint-Esprit. Donc, elle a mélangé tout en même temps. Alléluia. Au Cameroun, s'il y en avait un, il est mort. Bon, on n'a pas encore enregistré un nouveau. Hein? On attend encore. Alléluia. En Russie, il y a un. Aux États-Unis, il y a l'autre. Il a même la Cadillac. Alléluia. Il a dit, allez dire à tout le monde que je suis déjà revenu. Et Jésus était pauvre, mais le nouveau, comme il est revenu, il est riche. Il doit rouler dans la Cadillac. Il doit être bien vêtu. Il doit vivre que dans les hôtels. Chaque jour, chacun devient, il dit, c'est moi le Messie. C'est moi le Messie. Donc, on a déjà ce premier signe qui prétend forcément être le Christ et qui le reproduiront. Deuxième chose, les guerres, les bruits de guerre que nous voyons déjà. Regardez notre simple nation. Nous avons des guerres à côté de nous. Ici dans le Nozo, ici dans l'est du Cameroun, ici dans le nord du Cameroun. On a des guerres, on a des conflits. Et en Afrique, ici au Mali, ici en Centrafrique, ici en Côte d'Ivoire, ici au Burkina Faso, les nations qu'on disait, ah là-bas la guerre va même arriver, même comment c'est arrivé. Deuxième signe, c'est ça le deuxième signe. Troisième signe, l'apparition des famines, des pestes. On a eu le coronavirus, on se prépare pour un nouveau. Alléluia. Les famines. Aujourd'hui en Europe, les gens ont faim. Faim, ils s'alignent chaque jour. L'autre jour, on sortait une étude que les pauvres ont augmenté en France. Les pauvres. Alléluia. Et vous voulez aller remplir la liste des pauvres? Dieu, plante-moi au Cameroun. Je pars seulement visiter et reviens. Alléluia. Alléluia. Quatrième signe. Plusieurs justes sont livrés à la persécution et à la mort pour s'être identifiés à Christ. Aujourd'hui, il y a une grande bataille. Des calomnies et d'accusations du témoignage de Dieu, de Jésus dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu et même des pasteurs. Aujourd'hui, nous le voyons sur les réseaux sociaux. Une calomnie. Et cette calomnie est portée même par les pasteurs eux-mêmes contre d'autres pasteurs. Alléluia. Les enfants de Dieu contre d'autres enfants de Dieu. Toi, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Et une histoire que je me rappelle, c'était une dame qui allait voir Bishop David au dépôt pour la délivrance. Et lorsqu'elle a prié avec lui, elle lui a dit, papa, je vais te raconter un songe. Après que tu aies prié, j'ai eu une révélation. Et la dame a dit laquelle? Elle dit, j'ai eu un songe comment papa Kumuyi de Deep Alive a imposé les mains sur moi et j'ai été totalement libre. Et l'histoire raconte que papa au départ a pris le pic, il a fait une recommandation, il dit, va voir mon frère, donne-lui cette lettre. Et quand il est allé voir cet homme, il lui a dit, voilà la lettre que papa au départ m'a donnée, il a lu. Et là, il disait que, frère, cette soeur a reçu une révélation que c'est par toi que sa délivrance va avoir lieu. Impose-lui les mains et prie, ton Dieu la délivrera. Et c'est comme ça qu'il a imposé les mains à cette femme. Elle a été totalement délivrée et il a écrit une nouvelle lettre. Il a dit, rentre vers ton pasteur. Il a dit, frère, j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné. Elle est libre, tu peux maintenant l'accompagner dans la suite de sa vie. Alléluia! Est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre qu'on est peut-être tous apôtres, mais on n'opère pas dans les mêmes couloirs? Dans la maison de Dieu, il doit avoir des spécialités. Toi, tu es spécialiste dans tel domaine. Toi, tu es spécialiste dans tel domaine. Dans la vie courante, ce n'est pas tous les docteurs qui font la même chose. Il y a l'ophtalmologue, il y a le cardiologue, il y a le rhumatologue. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a des apôtres, des pasteurs qui sont spécialisés pour prier pour les pieds. D'autres qui sont spécialisés pour le dos. D'autres qui sont pour la tête. D'autres qui sont pour la main. Pour l'édification du corps. Il n'y a aucun pasteur qui peut guérir tout le corps. Chacun prophétise en partie. C'est écrit. Personne n'a la prophétie totale. Dieu te donne une partie, il me donne une partie, il lui donne une partie, et lorsqu'on complète, ça fait un tout. Mais si on n'a pas l'humilité de comprendre cela, on accomplit donc un des signes de l'enlèvement. Alléluia. Un autre signe, beaucoup seront offensés, se trahiront et se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit au quotidien. Un autre signe, beaucoup de faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Je n'aime pas commenter ce que certains pasteurs font. Alléluia. Mais je dis, si nous laissons bien enseigner, Dieu accroîtra notre discernement pour savoir qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le monde, c'est les réseaux sociaux qui dit qui est homme de Dieu ou pas. Vous allez voir un direct, quelqu'un va être 1000, les gens vont être 1000. Oh non, certainement c'est un vrai homme de Dieu. Hier soir, on s'est arrêté, maman et moi, dans un restaurant pour manger. On voulait prendre des brochettes. Et il y avait des gens, il y avait beaucoup de gens. Alors un monsieur est venu derrière nous. Il dit, les brochettes là c'est bien. Il dit, il cause d'abord avec un autre derrière. Et le gars dit que, ah mon frère, si ce n'est pas bien, on va seulement tomber tous dedans. On va seulement se noyer tous. Après il dit que bon, à l'heure-ci où je suis obligé, j'ai envie de manger ça. Il prend d'abord un morceau. Après il s'approche de moi, il dit que, gars, c'est bon. Tu as la goûter. Il dit que mon frère, moi je vais seulement plonger. Si c'est bon, c'est pas bon. Je vais seulement gérer comme ça. Il dit, je prends un deuxième, je prends le risque. Je prends un deuxième morceau. Alléluia. Oh, regardez l'élément qui lui... Il dit, après il a dit, en tout cas, ça doit être bon puisqu'il y a beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Après il dit, ah, la magie du gars, il doit être fort. Hein. Regarde la quantité de gens. En tout cas, je vais manger. Même s'il y a quoi dedans, je vais manger. Ça veut dire que on a identifié une église forte, une église bénissante par le nombre. Le nombre n'est pas automatique, c'est bien d'avoir le nombre. Alléluia. Non, je ne dis pas qu'avoir le nombre est dangereux. Avoir le nombre, c'est l'ennemi. Non! Il faut faire cette différence. Aujourd'hui, c'est le nombre qui dicte la pensée de Dieu dans la vie d'un chrétien. Ah non, s'il y a beaucoup de gens, Dieu est là-bas. Poup. Non! Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, la raison pour laquelle beaucoup manquent, c'est parce qu'ils ne sont pas des brebis. Si tu es une brebis et que tu es soumis au berger, le berger te conduira vers les verts pâturages. C'est ça le problème. Jésus est le bon berger. Il connaît le meilleur endroit où tu dois manger et être satisfait. Et parfois, il peut même te conduire là où il n'y a que deux personnes. Ou il peut choisir de te conduire là où il y a une foule. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Alléluia. Alors avant d'aller quelque part, ne viens pas demander, l'homme de Dieu là, il a l'onction. Celui-là n'a pas l'onctionmètre. Mets les genoux à terre, Seigneur, est-ce que tu connais cet homme? L'as-tu envoyé? Est-ce qu'il a... Un jour, il y a cette femme syrophénicienne qui est venue voir Jésus. Et Jésus était à table et bizarrement. Et il mangeait. Et elle a supplié de venir aider son enfant. Et Jésus va dire que, très sincèrement, il n'a rien pour elle. Parce qu'il n'est pas venu pour elle.
Quelle réponse dure! Il y avait des moments où Jésus était dur. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'il était insensible. Alléluia! Il dit, non, 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 je n'ai rien pour toi. S'il était dans notre époque, on devait dire, voilà, voilà les pasteurs d'aujourd'hui. Voilà les pasteurs. Hein, on dit l'amour, l'amour. Jésus, mieux que nous, dit qu'il n'a rien pour cette femme. Et la femme ne s'est pas laissée décourager. Elle a dit, il a dit, ceci c'est pour mes enfants. La nourriture qu'il a, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, et Jésus dit qu'il n'a pas la nourriture pour les chiens. Il insulte même encore. Pour les chiens. Hey, si je dis ça à un chrétien, on va faire un direct sur moi. Connectez-vous, connectez-vous. J'ai une vidéo à vous montrer. Je vais exposer un homme de Dieu dans la ville-ci. C'est un sataniste, j'avais déjà dit ça. Alléluia! Jésus dit chien. Et la femme ne s'est pas découragée. Elle a dit, papa, même les chiens mangent les miens qui tombent de la terre. Jésus dit, mon Dieu, la foi! Alléluia! Il y a des situations dans ta vie où Dieu va permettre un mépris pour provoquer la foi en toi. Dieu va provoquer une injustice pour déclencher la foi en toi. Parce que dans ta tête, quand il n'y a pas l'amour ici, va aller là-bas. Écoutez, si vous allez dans le livre d'Apocalypse, au début, les premiers chapitres, vous allez voir que Jésus s'est adressé à sept églises. Et les sept églises, aucune n'était parfaite. Toi, j'ai un problème avec toi. Tu es bien ici, mais ici tu es mauvais. Toi, tu es bien ici, toi tu es mauvais. Toi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Toute église que vous voyez a un problème. Voilà notre papa Tibi Joshua qu'on bombarde chaque jour. On sort sa part de dossier. Alléluia. Alléluia. Avant lui, on a pris Titi Dix. Avant lui, on a pris Pasteur Chris. Avant lui, on a pris Papa au dépôt. Avant lui, on a pris Papa Deboye. Avant lui, on traitait Papa Zach Tanefumun de sorcier ici. Il vivait encore. Alléluia. Alléluia. Mais bien-aimé, le septième point, il dit l'iniquité abondera et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, c'est ça la vérité. L'iniquité, l'iniquité. Je vous ai dit, l'iniquité, c'est le péché générationnel. Alléluia. C'est le péché générationnel. L'iniquité va s'accroître. Et on est en train de vivre ça. On vit l'iniquité. Les péchés qui étaient partis sont en train de revenir à galop. L'homosexualité que Dieu a détruite à Sodome et Gomorre. Voilà ça. Dans l'église, on a attrapé récemment un pasteur avec un garçon. Je vous dis, ça a intégré l'église. Ça n'épargne personne. J'ai une de mes filles qui a son camarade de classe avec qui elle a fréquenté, elle a étudié, ils sont sortis de l'école, il a eu son bon boulot, elle a eu son bon boulot, et par lui, elle a rencontré son mari. Et pendant les fiançailles, elle a constaté que l'ami était un peu jaloux. Elle croyait que l'ami était jaloux parce que le gars l'avait demandé la main. Alors que le gars était jaloux parce qu'elle avait pris son gars. Le gars aimait son gars, qui était son ami aussi. Il a attendu, ils se sont mariés. Ils sont allés le voir, dit que bro, vraiment on est les amis, il ne faut pas qu'on se sépare comme ça, réconcilier. Ils se sont réconciliés. Un an de mariage, 2 ans de mariage, ils ont eu les enfants, amis de la maison. Lui-même, il est même d'ailleurs venu chez moi. On l'a reçu à la maison plus d'une fois. Un jour comme ça, il n'en pouvait plus. La viande l'échappait. Alléluia. Il envoie le texto à son ami, cause. Comme tu causes avec ton ami par WhatsApp. Gars, c'est comment, on cause, appris que gars, tu me vois comment. Il dit, je te vois comment, comment.
Ma fille était choquée. Elle m'appelle. Elle dit, je vais seulement t'appeler au téléphone. Elle m'appelle. Elle dit, c'est grave. Frère, l'iniquité abonde. Je prie que tu ne sois pas englouti par les signes de la fin des temps. Que Dieu te protège, toi et ta famille, au nom de Jésus. Alors, parlons de foi. La foi, c'est quoi encore? La foi, c'est simplement croire intensément. Alléluia. Lorsque nous parlons du système de la foi, nous parlons du système de la croyance qui est la substance qui donne ou sponsorise l'accès aux réalités surnaturelles de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas avoir accès à certaines réalités de Dieu. Aux réalités de Dieu, pas certaines, aux réalités de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 1, il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Vous voyez? Remarquez l'utilisation délibérée du mot « or » qui implique que la foi est une réalité tangible, une réalité actuelle et non une réalité passée ou éphémère. La foi elle-même est une substance, ce qui signifie que la foi n'est pas vague, elle est pratique, elle est probante. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai déjà enseigné une fois ici les caractéristiques de la foi. J'avais dit les premières caractéristiques de la foi, c'est la ferme assurance, c'est la fermeté. Amen. Première caractéristique de la foi, c'est la fermeté. C'est la fermeté. Deuxième caractéristique, l'assurance. Troisième caractéristique, l'espérance. Quatrième caractéristique, la démonstration. Bien-aimé. Alors, en ce qui concerne la vie de foi, il faut cesser de considérer l'intangibilité, c'est-à-dire le caractère de ce qui ne peut pas être modifié de la foi pour juger de sa réalité. Bien-aimé, l'autre jour, j'ai posé une question ici. Et j'ai dit, à quel moment croiras-tu que Dieu est grand dans ta vie? Beaucoup ont dit, au moment où j'aurai l'argent. D'autres ont dit, au moment où... La voiture. D'autres ont dit, au moment où telle promesse, telle promesse, telle promesse. Et notre fille Claire, elle a donné une description qui va rester pour toujours dans ma tête. Alléluia. Elle a dit, vraiment, c'est-à-dire, elle a dit, Dieu est un peu comme un homme qui dit, je t'aime, mais il ne fait rien. Et elle est fatiguée de ça. Vous savez, la manière qu'elle décrit, c'est la manière que beaucoup de nous ressentent ça. Ne regardez pas. Tout le monde ici, c'est comme un gars qui te fait la cour, mais il ne t'amène jamais au resto. Je t'aime. Chaque jour, il vient que devant ta porte, il dit, je t'aime. Amène-moi quelque part. Je vais te donner ça. Un jour, tu vas dire, mon frère, il faut te calmer. Va chercher ailleurs. Amen. Parce que le monde, vous voyez, le problème qu'on a, c'est qu'on a voulu humaniser Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. L'homme est l'homme. Dieu ne fait pas comme un homme, il est Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors on veut ramener Dieu dans... Non, si Dieu est mon Dieu, il doit faire comme ton père. Ton père a caché les beignets, il dit, ma fille, prends, mange. Je dis, voilà, ça c'est Dieu. Pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie, il prend en compte beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Il prend en compte ton passé, ton présent, ton futur. Toi, tu ne vois que ton instant présent. Je vais être bien. Je vais bien manger. Je vais pouvoir marcher dans mon salon comme ça, mettre ma clim, mettre mes pieds sur la table vitrée. Et là, Dieu. Non, ça c'est humain. Dieu peut te garder dans le désert, mais manifester une plus grande destinée pour toi. Le fait que tu vives dans le désert ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Il a dit à Moïse, je t'ai fait souffrir de faim, je t'ai humilié, afin de connaître quelles sont les motivations de ton cœur. Frère, Dieu fait souffrir de faim. Dieu humilie pour sa gloire. Pour sa gloire. Alors, je voudrais rassurer quelqu'un ici que Dieu n'est pas macho. On dit macho. Majo, ma quoi? Voilà, comme vous avez dit. Alléluia. Hein? On dit quoi? Mazo. Oui. Voilà. Voilà, pour aimer que. Mettre la douleur sur ta vie. Amen. Qui se plaît de tes douleurs? Non. Dieu n'est pas la qualité là. Il ne se plaît pas de tes douleurs. Dieu n'est pas l'origine de tes conflits, de tes difficultés, mais il s'en sert pour sa gloire. Alléluia. Il s'en sert pour sa gloire. Et je voudrais que vous reteniez cela. La foi est le créateur de bons rapports pour la formule de la qualification divine. La foi nous amène à un niveau de qualification divine où nous obtenons un bon rapport au-delà de nos imperfections et de nos fragilités. Hébreux chapitre 1, le verset 2. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi te donne un bon rapport, un bon témoignage. Un bon témoignage, une bonne réputation. Écoutez, la réalité d'une bonne réputation, c'est-à-dire d'un témoignage authentique, naît dans le sein de la foi et non dans le jeu de l'auto-perfection et de l'auto-justice. Alléluia. Si vous vérifiez les dossiers des hommes, les archives des hommes qui ont obtenu de bonnes notes par la foi, vous découvrirez que ce n'était jamais par leur perfection ou leur justice. Alléluia. La plupart des bons rapports de ces personnages que nous étudions dans la Bible n'ont jamais été le fruit de la perfection ou de la suffisance. Regardez Abraham. Regardez Noé. Commençons par Noé. C'était un alcoolique. Hein? C'est pas ça. Noé était un alcoolique. Amen. Abraham, qu'on dit le père de la foi, il a manqué la foi, il allait coucher avec la servante Agar. Mais Dieu a dit, c'est toi le père de la foi. Amen. Regardez Moïse qui a commis un meurtre en Égypte et s'est enfui. Élie pouvait commander le feu sur Jézabel, mais il s'est enfui. Allez, avec un esprit de suicide dépressif. Seigneur, je suis resté seul. Prends ma vie. Laisse-moi mourir. Et Dieu va lui dire, calme-toi mon petit. Calme-toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ce n'est pas. Alléluia. Il dit, il y a 7000 prophètes que je garde dans le secret, qui n'ont jamais mis fléchi genou devant Baal. Et le jour-là, je crois qu'Élie a été un peu humble. Parce qu'il se croyait le super, super prophète de la terre. Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans l'ombre, que Dieu a trouvé bon de les garder dans l'ombre. Que Dieu les utilise dans l'ombre. Toi, il choisit de te mettre à la lumière. Et tu tapes ta poitrine, moi, je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure. Lorsqu'on va rencontrer Élie, il va vous raconter son expérience. Il va vous dire qu'il a failli être débauché de son poste de prophète parce qu'il a manqué de foi. Alléluia. Regardez Salomon, plein de foi, plein de sagesse, mais qui avait un appétit insatiable pour les femmes au lieu de prendre 700 épouses et 300 concubines. Quel intérêt il avait à prendre 1000 femmes, vous-même? C'est même quoi cette histoire? David a pris la femme d'un homme et l'a tué. Et Dieu dit que homme selon mon cœur, Jesus. C'est quoi parfois, docteur dit que Lukuya dit que la raison pour laquelle vous entendrez tout dans mon église, j'ai dit fall and die, fall and die, fall and die, fall and die, fall and die. Donc tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Il dit parce que Mais tout sorcier qui m'attend doit mourir. S'il ne meurt pas, il peut se convertir. Et je le retrouve au ciel. Alléluia. Donc lui quand il prie, il dit, tombe meurt. On peut prier comme ça 5 heures de temps. Tombe meurt. Les coups des gars sont calés comme ça. Il dit non. Il y a des gens aujourd'hui, lorsque vous regardez leur vie, ça ne donne rien. Mais Dieu témoigne que ce sont ses serviteurs. Tu es dépassé. Et tu vois l'autre. Un homme de Dieu nous partageait, c'est qu'il est allé aux États-Unis pour une conférence. C'était sa première fois d'avoir un voyage hors du Cameroun aux États-Unis. Il dit la nuit à l'hôtel, il n'a pas dormi. Oh Dieu, demain, miracle, guérison. Jusqu'au matin, il n'a pas dormi. Ils étaient deux, il y avait un autre qui était jeune. Lui, il était qu'au resto toute la soirée. Il mange. Le matin, il se retrouve à la conférence. C'est lui le premier orateur. Anina, venant du Cameroun, un homme de feu. Oh, alléluia, levez-vous. Tout le monde voit. On lui donne le micro. Il dit, frère, j'ai dit tous les failles, personne n'est tombé. J'ai levé le pied, tout ce que j'avais appris. J'ai fini et je suis allé m'asseoir. Et le deuxième orateur, on est allé à la pause, on est revenu, on a donné la parole au deuxième orateur. Il dit, le deuxième orateur, il a juste pris la parole, il a dit, rendons grâce, adorons le Seigneur. Et les manifestations, les démons comment dire, oh, je pars. Oh, lui, il est venu. Donc, quand il est arrivé là, il a jeûné. Donc, du Cameroun, il a jeûné. Dans l'avion, on dit, est-ce qu'on peut vous servir? Il dit non, il est en prière. Il allait vers l'autre pasteur, il dit que bro, en toute humilité, c'est quoi ton secret? Il lui a dit que mon secret, c'est simple. Je suis né dans une maison, mon père est pasteur, mon grand-père est pasteur, mon arrière-grand-père est pasteur. Je suis de la 4e génération. Il dit quoi? Il ne fait plus d'efforts. Il plane sur ce que les autres ont posé. Toi, tu es Abraham dans ta famille. Il y a les gens qui sont Salomon. Alléluia! Tu n'as pas la même foi qu'eux, hein? Non. Je me suis retrouvé à un restaurant, à un mariage avec une chante. J'ai déjà partagé ce témoignage. Et on discutait sur la délivrance. Une chante du plein évangile. J'ai oublié comment. Elle s'est mariée aujourd'hui. On dansait beaucoup ces chants. Fallon. Avec Fallon. On était sur la même table. Et on discute. Fallon dit. Et il y avait un frère là. Elle était encore célibataire à l'époque là. Mon frère là était intéressé. Amen. Donc, il faisait tout pour l'impressionner. Il parle. J'ai dit, bro, calme-toi. Tu vois, on s'en va faire. Il a dit, non, moi, j'aime pas. Les pasteurs d'aujourd'hui, on fait trop de délivrance. On n'enseigne pas. J'ai dit, Fallon, il faut te calmer. Je vais t'expliquer quelque chose. Et toi-même, tu vas convenir avec moi. Ton père est pasteur, non? Elle dit, oui. Elle dit, tu sors d'une lignée de chrétiens, non? Elle dit, oui. Moi, je ne sors pas d'une lignée de chrétiens. Toi, tu es Salomon. Moi, je suis Abraham. Tu vois l'histoire? Je dois bâtir une génération. Je suis le premier après 50 ans d'idolâtrie. Toi, tu ne peux pas prier comme nous. Tu dis seulement Alléluia. Les gens, les démons qui. Alléluia. Regarde tes cantiques. Quand tu chantes tes cantiques, regarde comment ça bénit les gens. Ça rentre dans le cœur. Je suis radical. Tu peux être radical, ma soeur. Tu ne peux pas connaître la qualité de radicalité que nous on a. Tu chantes la radicalité là sans comprendre. Je suis radical, radical de suivre Jésus. Nous, hein, notre radicalité, on n'avait pas le choix. Toi, tu avais le choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, regardez la vie de toutes ces personnes. Regardez la vie de Salomon. Samson, qui a vendu son droit de sa force pour un petit moment de plaisir avec une femme bien-aimée. Il est donc clair que ce n'est pas par la foi. Ce n'est pas la foi que Dieu a reconnu ces hommes. Ce n'est pas par leur perfection. Ce n'est pas par la qualité de leur vie. Dieu ne t'encourage pas à aller vivre une mauvaise vie et dire que ah, Dieu cherche que la foi est. Vraiment, je n'ai pas moi. Vraiment, c'est le cœur qui compte. Non, tu vas aller en enfer. C'est tout simple. J'ai dit ceci. Tu ajustes ta vie selon la parole du Seigneur. Il t'aide dans tes imperfections, dans tes insuffisances. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche. C'est une marche. Quand on dit marche, tu marches. Cinq raisons pour lesquelles les gens perdent la foi. Alléluia. Cinq raisons pour lesquelles les gens perdent la foi. Première raison, une réponse tardive aux prières. Alléluia. Oui. Une réponse tardive aux prières. Même nous, pasteurs, quand Dieu nous dit, je vais faire ça un jour, deux jours, trois jours, un mois, six mois, huit mois, dix mois, deux ans, trois ans, tu dis, Seigneur, toi-même. Toi-même. Il y a des gens qui ont prié pendant de nombreuses années, mais qui ont des retards. Il semble que plus ils prient, plus ils voient le contraire. Dans ce genre de cas, les gens peuvent perdre la foi. Lorsque votre espérance est différée ou retardée, votre cœur est malade. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Sur quoi Dieu nous instruit parfois de prier pour vous en disant, Seigneur, accélère ta promesse. Accélère ta promesse. Pour que la foi de cette personne ne se perde point. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle les gens perdent la foi, la tromperie et la manipulation. La tromperie et la manipulation. Il existe de nombreuses prédications trompeuses et manipulatrices inventées en dehors de la vérité des Écritures. Et cela a pour but d'endommager la foi de nombreuses personnes. Aujourd'hui, vous voyez des pasteurs qui se filment sur les réseaux sociaux, qui montrent leur gloire, leur voiture, qui montrent comment ils ont la piscine, comment ils claquent de l'argent. Alors que dans leurs églises, il y a des gens qui manquent à manger. Frère, comment tu peux faire une chose pareille? Alléluia! Très sincèrement, il y a des pasteurs que je n'écoute pas beaucoup, même s'ils ont un excellent message. À cause de cette partie de leur vie, je refuse de les écouter et mon cœur parle. Alléluia. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des faroteurs. Est-ce qu'on comprend le sacerdoce, le sérieux du sacerdoce qu'on porte? Alléluia. On ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Apôtre Jérémie, tu peux te permettre n'importe quoi. Même le président, même notre président, vous l'avez déjà vu poser n'importe quel acte. Mais on voit les pasteurs poser certains actes. J'ai vu dans une église, un pasteur a invité un orateur au Congo. Un pasteur a invité l'orateur a prêché. Il s'est rendu compte que pendant que son orateur prêchait, il avait un pantalon serré. Maman, tous les soeurs suivaient le message ailleurs. Il est monté sur l'autel, il a dit, brother,
Je vais continuer la prédication. Amenez-le derrière.
tu vas voir des prédicateurs aujourd'hui, quand il vient, il est tellement, comment vous appelez ça? Cilimé partout. Ça dessine tout son corps. Toutes les jeunes soeurs célibataires, leur cœur tremble comme ça, les pop-corn. Elles ne suivent aucun de messages. Ma soeur, le frère, là, pasteur là, il est beau, hein? Ma soeur, pasteur là, il est beau, hein? Mince! Alléluia! Hein? Donc, comment mon fils, Yom, qu'il est chaud? Elle est déjà slimé comme Yomkil. Un prophète a fait ça. Dans l'église de mon pasteur, il a détruit la moitié des sœurs. Détruit la moitié des sœurs. Même mon pasteur, on n'avait jamais célébré son anniversaire. Mais le pasteur là, le prophète là, les sœurs de l'église, les mamans, tout le monde célébrait. On a, j'ai dit toutes les sœurs, chacun savait quelle était la titulaire. C'est toi, c'est toi. Et il y avait une sœur à l'église là-bas, une sœur, c'est lui qui venait chaque fin de mois au boulot pour prendre son salaire. Avec la promesse d'un mariage futur. C'est toi qui vas épouser, laisse. Reste dans la prière, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Et les jours où il voulait faire des choses impressionnées, il mettait sa grosse soutane. C'est pourquoi vous ne me voyez pas beaucoup en soutane. Parce qu'il ne veut pas trop ressembler à certains amis. Ce sont des amis entre guillemets. Alléluia. Alléluia. Et quand on met la soutane, quand tu vois, tu dis non, aujourd'hui l'onction là va descendre. C'est faux. Frère, un jour mon père, papa, un de mes papas là, papa César, il m'a dit que un jour il était en voyage et il est parti en voyage. Pas derrière, son épouse est tombée malade et il avait prêché avec un de ses costumes, il l'a laissé à la maison. Et quand elle était malade, elle est allée prendre son costume, elle a porté. Et quand elle a porté, instantanément, elle a reçu sa délivrance. Frère, quand je prêche Jésus sous l'onction, la piscine devient support de la grâce de Dieu. Mais ne viens pas déchirer mon costume. On vous connaît les pentecôtistes. Alléluia. Tu déchires, tu payes. Amen. C'est pas comme l'autre a déchiré, elle est partie. On vous connaît. Amen. Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Troisième raison pour laquelle les gens perdent la foi. L'attaque et les erreurs des héros de la foi. L'attaque et les erreurs des héros de la foi. Bien-aimé, bien que je sois ton pasteur, je suis aussi sujet à des erreurs. Hello, parce que je suis homme. Et c'est aussi ton rôle, pas de cacher mon erreur, mais de prier pour que Dieu m'aide dans mon erreur. Alléluia. Et quand Dieu te le permet, de m'interpeller, mais de manière sage. Amen. De manière sage. De manière sage. Lorsque quelqu'un qui vous a conduit à Christ tombe dans certaines erreurs charnelles que vous connaissez, vous risquez de perdre la foi. Vous voyez? Il y a des gens que lorsque tu l'as toujours connu brave dans la foi et du jour au lendemain chute, tu dis ah, ça ne vaut plus la peine. Vraiment, ça ne vaut plus la peine. Si lui il a chuté, l'affaire là c'est zéro. Alléluia! L'affaire là c'est zéro. C'est la raison pour laquelle vous devez faire de Christ votre norme et non un homme de Dieu. Amen. Paul va même dire dans 1 Corinthiens 11, le verset 1, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En d'autres termes, suivez-moi comme je suis Christ. Amen. Alors, tant qu'il ne suit pas Christ, ne le suivez plus. Si je viens ici et vous prêchez un autre évangile différent de ce que la parole de Dieu prescrit, disent, avec tout le respect qu'on a pour toi, apôtre, tu es hors jeu. Alléluia. Alors, ce qui implique que si je cesse de suivre Christ, cessez aussi de me suivre. Demain, j'arrive et dis que j'ai une nouvelle révélation. Maintenant, dans l'église-ci, on vient qu'avec les slips. Hein? On va tous aller au ciel. C'est une révélation. Tout le monde regarde comme ça. Hein? Slip. Un jour, un pasteur nous a amené à faire une erreur des Écritures. Il nous a dit, venez avec action prophétique. C'est là les actions prophétiques. J'ai écrit dans mon livre sur le ministère prophétique, j'ai écrit une partie sur l'action et l'acte prophétique. Amen. Et j'ai essayé de détailler. Papa André m'a interpellé d'aller plus en profondeur. Donc, je suis en train d'écrire un nouveau document sur l'acte et l'action prophétique. Alors, il nous dit, amener une fourchette à trois dents. On va piquer sur l'autel de Dieu nos bénédictions. Vous savez la référence? La référence était les fils de Élie qui restaient à l'entrée du temple et quand les gens entraient avec l'offrande, ils avaient une fourchette à trois dents et ils piquaient les offrandes, les parties qui les plaisaient. Et c'était dans la désobéissance. Il nous a dit non, venez. Et le jour-là, les gens, il y avait les fourchettes dans l'église, frère. Les ont acheté 10 pour chaque membre de leur famille. Ils avaient levé. Comme les fourchettes viennent en 4 dents, on avait cassé. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait les marmites, il avait l'aluminium plein devant l'église. Et chacun levait. Levez les fourchettes. Et j'étais là. J'étais encore jeune chrétien. Mais ça interpellait mon esprit. Il dit que merde. Faisons quand même pas obéissance. Pique ta voiture, pique ta maison, pique. Mais je vous dis les choses que moi-même j'ai piqué. Après, je rentre à la maison. Ça, c'est avant que je ne connaisse mon pasteur, l'apôtre Robert. Je rentre à la maison. Pendant que je rentre comme ça, l'Esprit de Dieu me dit, tu as même piqué quoi? Je dis, Seigneur, j'ai piqué mes bénédictions. Il dit, tu es sûr? Tu es sûr qu'on ne t'a pas volé? Tu es sûr que l'ennemi ne t'a pas lui-même piqué? C'est là où je suis allé chercher le texte moi-même. Quand j'ai lu, je me suis mis à genoux et dit, Seigneur, demande pardon. Je demande pardon. J'ai été induit en erreur. Vous voyez, parfois, c'est pourquoi beaucoup perdent aussi la foi. Certains pasteurs, certains dirigeants spirituels les induisent en erreur. Les induisent en erreur. Je connais un pasteur qui avait une de ses filles dans le Seigneur qui le plaisait. Malheureusement, il était marié. Et la même sœur, il y avait un frère à côté qui avait les vues pour la sœur. Et il avait même demandé la main. Et ils sont allés voir le pasteur. Le pasteur a dit que ne voit pas ça de la part de Dieu. Il a dit que ma sœur, le mariage ne vient pas de Dieu. J'ai prié. Cette histoire peut détruire la foi de quelqu'un. Et c'est à ce moment qu'ils sont venus me voir. J'ai dit, ça vient de Dieu. Et j'ai dit à cette fille, qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle a avoué. Mon pasteur, et l'autre jour, il m'a appelé chez lui. Il m'a dit de s'asseoir sur ses jambes. Et puis il a dit que je lui plais. Après, il a dit que. Après, il a failli me violer. J'ai seulement poussé. J'ai dit, tu ne l'as pas donné le coup de poing là où je pense. Alléluia. N'a rien de Dieu. C'est un violeur. Est-ce qu'on est ensemble? C'est un destructeur là. Donc tout ça détruit la foi de beaucoup de gens. C'est des personnes qui sont comme des... Ce sont nos modèles dans la foi. Beaucoup ici s'identifient dans leur foi à moi. Alors ma manière de marcher va influencer votre foi. C'est pourquoi je dois faire beaucoup attention à ma marche. Je dois faire beaucoup attention. En ce moment, je n'ai pas de voiture. Je vous ai dit ça ici. Je suis obligé de prendre la moto et mettre le cache-nez pour que vous ne me reconnaissez pas. Parce que si vous me voyez sur la moto, ça va affecter votre foi. Vous rigolez, hein? C'est papa qui passe là-bas. Il est sur la moto. Alléluia. Je mets le cache-nez. Et quand il roule, les biscuits roulent, ils font ça. Pour guetter si je vois un de mes chrétiens sur la route. Alléluia. Jésus est sur le point de me donner une nouvelle voiture. Alléluia. Et tu le verras. Parce que tout ça, c'est pour sa gloire. Amen. Quatrième raison pour laquelle les gens perdent la foi. La familiarité. La familiarité. Oui, frère. La familiarité est cet esprit qui vous donne l'impression de connaître une personne et de pouvoir la prédire avant même qu'elle n'agisse. La familiarité peut vous faire prédire et conclure sur votre pasteur et manquer le niveau du futur de la foi dans lequel vous devriez grandir. Beaucoup de gens perdent leur foi parce que la familiarité leur fait banaliser et normaliser les choses de l'esprit. Non, c'est papa, il dit toujours comme ça. C'est papa, il dit toujours comme ça. Non, non, non. Vous devez quitter certaines zones de familiarité si vous ne voulez pas perdre votre foi. Gardez la distance avec votre pasteur pour que les choses qui sortent de lui fortifient votre foi. Si vous devenez trop ami, trop collègue, c'est papa, je peux lui parler, je peux dire n'importe comment, je peux parler n'importe comment. Tu ne sais pas le moment où tu vas te dérégler. Tu ne sais pas le moment où Dieu va dire « Out !» Alléluia. Lorsque vous regardez le livre de Nombres, chapitre 12, vous voyez l'histoire de Myriam, qui était la grande sœur. J'ai dit la grande sœur, même ventre avec Moïse. Même Mathieu a ouvert la bouche pour dire « Nous aussi on est prophète, hein? Nous aussi on est prophète. Nous aussi on est prophète. Nous sommes d'une famille de prophètes. Aaron prophétise, je prophétise. Moïse, qu'est-ce qui fait la différence avec toi? » La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient. Dans d'autres versions, le plus doux. Il n'a rien dit. Il est resté calme. Un matin, Dieu a envoyé une lettre de convocation privée. Boîte à lettres privée. Moïse n'était pas au courant. Il a dit, ordre du jour, séance tenante. Trois points. Signé, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tente d'assignation. Myriam vient, elle croit que Dieu la convoque pour lui donner un nouveau cantique. Il dit, viens. Aaron arrive, il croit que Dieu va lui donner, comme d'habitude, de nouvelles prophéties de la part de Moïse. Moïse arrive aussi, il dit, ah, bro, vous êtes là. Il y a quoi? Le patron nous a dit de venir. Quand le patron a commencé la réunion, il a repris Aaron. Il a commencé par Myriam. Lèpre. Bam! Lèpre. Quand Myriam a reçu la lèpre, vous savez ce qui s'est passé? Aaron est tombé au pied de Moïse. Aaron n'est pas tombé au pied. Aaron qui est le grand frère, il est tombé au pied de Moïse. Sauve-moi. Seigneur, aie pitié. Et c'est Moïse qui a dit Seigneur. Et la lèpre a été évitée, mais la mort prématurée s'est attachée à Aaron. Il est mort dans le désert. Alléluia. Alléluia. Ne blaguez pas avec la gloire que Dieu a mis à vos côtés. Ne blaguez pas avec la gloire. Bien-aimé, Je peux dire des choses calmement, simplement, mais prenez ça sérieusement. Alléluia. Je connais des pasteurs. Chez lui, tu vas arriver, tu vas voir les chrétiens, les gens viennent chez lui, tel lave les assiettes, tel lave les habits, tel... Moi, j'ai dit, je ne fais pas ça chez moi. Parce que je veux pouvoir contrôler mon univers. Ma maison, c'est ma maison. Personne n'y a accès, excepté ma femme et moi. J'ai vu, ça fait que les gens viennent nettoyer le chez toi, toute ta maison est dans l'église. Hein? Papa est venu aujourd'hui, maman a mis un petit matelot comme ça. Hey! Elle a mis le matelot, c'est pour toi. Jesus. Amen. Amen. Donc, faisons attention à ces choses. Regardez Abigaïl, qui a vu David dans sa destinée prophétique. Mais à côté de ça, Michal, qui était l'épouse, la première épouse de David, l'a méprisé parce qu'il s'est dénudé devant le trône de Dieu. 1 Samuel chapitre 25, à partir du verset 23. 1 Samuel chapitre 6, à partir du verset 16. Et la Bible dit qu'à cause de cela, elle est restée stérile toute sa vie. Stérile. Cinquième raison pour laquelle les gens perdent la foi. L'amertume et le manque de pardon. Oui, mes bien-aimés. Beaucoup gardent l'amertume. Hébreux chapitre 12, verset 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infecté. Bien-aimé, un des cancers les plus dangereux dans la vie du chrétien, c'est l'amertume. Et l'amertume est le produit du non-pardon. Plus tu refuses de pardonner, plus ça prend racine. Parce que le non-pardon, c'est la semence. L'arbre, c'est l'amertume. Et le fruit, c'est la mort. Le fruit, c'est l'AVC. Le fruit, c'est les maladies cardiovasculaires, l'AVC. Les fruits, c'est, comment on appelle ça, les maux d'estomac, alléluia. Les fruits, c'est tout. Et le plus gros de tous les fruits mûrs, c'est la mort. Non, je ne pardonne pas. Non, je laisse. Non, je ne laisse pas. Non, je ne laisse pas. Matthieu 6, 14, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. La foi de beaucoup a été grandement brisée par le venin de l'amertume. Frère, ne laisse pas l'amertume grandir dans ton cœur. Ne laisse pas le manque de pardon grandir dans ton cœur. Alléluia. Pour préserver la valeur de ta foi, tu dois apprendre à pardonner aux gens avant même qu'ils ne te le demandent. Alléluia. L'apôtre de Paul a dit un jour dans une prédication qu'il s'est tourné vers sa femme, Maman Faith. Il a dit, Maman Faith, j'étais déjà pardonné même pour les péchés dans 50 ans. Elle a dit, hein? Il dit, j'étais déjà pardonné. Donc il a déjà entraîné son cœur. Quand sa maman vient dire que, papa, pardonne-moi. Il dit, j'étais déjà pardonné. Alléluia. J'étais déjà pardonné. Ne laisse pas l'amertume te détruire. Ne laisse pas le manque de pardon te détruire. C'est désavantageux pour toi. Alléluia. C'est désavantageux pour toi. C'est désavantageux pour toi. Alors, les quatre catégories de personnes à qui vous devez pardonner. Vous avez vos parents biologiques. Vous avez vos amis, vos collègues. Vous avez vos concurrents. Et vous avez vos ennemis. Quatre catégories, vos parents, biologiques ou spirituels. Alléluia. Ensuite, vos amis et vos frères. Ensuite, vos concurrents. Et enfin, vos ennemis. Alléluia. Je prie pour toi. Tu ne perdras pas ta foi au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta foi au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta foi au nom de Jésus. Alors la grande question que nous nous posons ce matin. Comment rebâtir notre foi? Première clé, par la parole de Dieu. Amen. Par la parole de Dieu. La parole de Dieu possède les nutriments spirituels qui reconstruisent votre foi. La parole de Dieu est le régime spirituel parfait pour que votre foi soit en bonne santé et qu'elle retrouve sa force. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, ta foi est liée à la parole. Deuxième élément pour rebâtir notre foi, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec l'être suprême Dieu pour s'élever à des niveaux de foi plus profonds selon la devise du surnaturel. La prière construit et structure l'énergie de votre foi au-delà de toute rupture. Il n'est pas étonnant que l'Écriture dise, par exemple, dans Jude chapitre 1, le verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Amen. Et priant par le Saint-Esprit. Troisième élément pour rebâtir notre foi. Associez-vous et entretenez des relations avec des personnes dont la foi est plus grande. Alléluia. Associez-vous et entretenez des relations avec des personnes dont la foi est plus grande. Alléluia. Si tu manges avec quelqu'un de dépressif chaque jour, il va passer toute sa vie à dire, vraiment, oui, Dieu est bon, mais, Dieu est bon, mais, Dieu est bon, mais, alléluia. Mais quand quelqu'un a une foi forte que la tienne, chaque fois que tu vas, il dit, ma soeur, Dieu est fidèle, avance, ton rédempteur est vivant, il te fortifie avec la parole de Dieu, alléluia. Alors votre cercle peut vous maintenir dans un cycle. Votre cercle peut vous maintenir dans un cycle. La Bible dit, pour devenir sage, tu marches avec les sages. Alléluia. La Bible dit, Paul le dit même encore, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Votre association détermine votre connexion. Si vous vous associez à des personnes de plus grande foi, vous vous connecterez très probablement à des niveaux de foi plus élevés. Alléluia. Par exemple, il y a des questions sur lesquelles je discute. Par exemple, avant-hier, prophète de Dieu m'a appelé et on a passé un temps dans la discussion. Et on parlait et puis je lui racontais un peu certaines questions que j'ai dans mon esprit. Et il me donnait des conseils, il me disait, apôtre, sois fort, ça va aller, cette situation-là, tu vas atteindre. Et après, il me dit, apôtre, vraiment, ta foi me dépasse parfois. Alléluia. Et moi, je dis, bon? Alléluia. Il dit que ma foi est dépassée. Ah bon? Il m'a envoyé les photos de son église hier. Ils sont en train de carreler. Il reste comme ça, il dit que... Merci. Il dit que j'ai pas remis la toiture. La toiture de son église, 40 millions seulement la toiture, mon apôtre. La toiture, 40 millions. Donc la toiture de son église, c'est tout mon bâtiment. Amen. Il m'a envoyé les photos. J'ai seulement dit, waouh, apophète, que Dieu accélère ma foi comme ta foi. Quand tu marches avec quelqu'un qui booste ta foi grandit. Quand tu marches avec quelqu'un qui aspire comme la censure, frère, tu vas fondre et les difficultés vont t'enterrer. Alléluia. Il y a des gens que tu ne dois pas avoir à côté de toi. Quand tu marches dans cette vie de foi-ci, je t'aime beaucoup, ma soeur, mais je ne peux pas prier avec toi. Il y a des gens qui vont venir prier avec toi pour aspirer ta foi. Quand tu vas finir la prière, tu n'auras plus rien pour tenir. Mais il y en a d'autres, quand tu pries avec eux, tu sors, mon Dieu, tu es chargé, tu es chargé. Tu veux monter sur tous les épaules de tout le monde. Alléluia. Que Dieu te connecte à de telles personnes. Regardez David. Regardez Jonathan. Jonathan a boosté la foi de David pour croire qu'il devait s'asseoir sur le trône. David, à un moment, était découragé à cause des batailles. Jonathan lui a dit, Dieu m'a dit que tu es le prochain. Et pour lui prouver cela, il lui a remis son épée, il lui a remis son bouclier, il lui a remis sa ceinture. Quel plus grand signe? Ce soir, je viens comme ton ami, je viens comme ton collègue, je viens comme ton confident, je viens comme ton pasteur. Catapulter ta foi au nom de Jésus. 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 Quatrième.
On est où là? Quatrième quoi? Comment rebâtir notre foi? Quatrième élément.
Identifier où votre foi a échoué. Identifier. Si vous ne connaissez pas là où vous avez, votre foi a été endommagée, votre foi a fait l'accident, vous n'allez pas pouvoir colmater les brèches. Connaissez les situations qui ont causé des dommages à votre foi et traitez-les. Parfois notre foi a été endommagée lors d'une discussion avec quelqu'un. Alléluia. Identifiez cet endroit, le niveau de la conversation que vous avez eue à cet endroit. Commencez à corriger cela à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Commencez à corriger cela à la lumière de la parole de Dieu. Et par exemple, un autre exemple, pour connaître l'endroit, pour certaines personnes, les difficultés financières sont la situation qui a endommagé leur foi. Je n'ai pas d'argent. D'autres, le fait de ne pas avoir les fruits des entrailles, ça a endommagé leur foi. D'autres encore, c'est le fait qu'ils ne sont pas mariés. D'autres encore, c'est le fait que la promesse d'avoir une vie meilleure à l'étranger n'est pas encore manifestée. Il dit, Alors quand tu identifies cet endroit, tu peux apporter une guérison. Tu peux apporter une guérison. Alléluia. Alors vous devez découvrir et traiter tout ce qui combat votre foi. Et en dernier lieu, remplis son cœur des témoignages. Remplis son cœur des témoignages. Je vous l'ai dit la dernière fois, plus d'une fois, bien aimé, que l'une des armes les plus puissantes du royaume de Dieu et le moins utilisé par les enfants de Dieu en cette fin des temps, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Aujourd'hui, on a identifié le témoignage par la voiture, par la maison, par le salaire, par la promotion, par une nouvelle maison, par les connexions financières, par les nouvelles ouvertures d'affaires. C'est pas ça? Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, ta vie de foi est un témoignage. Une fois ici, ma fille Judith, Nana, racontait comment elle a pu garder sa pureté jusqu'à aujourd'hui par la vertu de la parole de Dieu. Alléluia! C'est un témoignage! Ça fait 10 ans, son mari n'est pas à côté d'elle. Elle vit comment? Ma fille Inès, elle vit comment? Elle dit que par la grâce de Dieu. Pas ma fille Nadège Photo. Son mari n'est pas à côté d'elle. Lève-toi, ma fille. Regardez, une belle femme. Regardez. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est sexy. Elle va sortir là, tous les gars, Si on te dit qu'elle a 5 enfants, tu ne vas pas croire. 4. Tu ne peux même pas croire. D'autres qu'ils accouchent, les pistolets et les carabines sortent. C'est pas mauvais, mais le vrai poids sort. Hey, je ne sais pas comment elle fait pour maintenir ce poids-là. Alléluia. Elle fait le sport. C'est le sport. C'est la grâce de Dieu. Vous mettez tout sur le dos de Dieu. OK, laissons. Prenons ça comme la grâce de Dieu. Mais ce que je voulais dire, bien-aimé, en réalité, c'est que regardez là. Elle peut rester là. Son mari n'est pas là. Ou Judith. Elle fait ses petits réseaux de gars dehors. Amen, on la gère. Ses petits busy, comme disent les Ivoiriens, les busy à gauche. Elle a au moins 30 busy. Mais elle choisit de rester comme ça et de craindre Dieu. C'est un témoignage. et qui paye devant le monde des ténèbres. Quand Satan vient pour l'accuser, il ne trouve rien. Il dit, parce que chaque jour, et le métier que ma fille fait, c'est un métier à risque. Parce que c'est un métier où elle doit masser les gens. Elle masse un jeune homme là, mal là. Le gars se retrouve très loin. Amen. Donc quand elle masse, elle prie. Oh Dieu, heureusement elle a les écouteurs, elle met mon message. Elle écoute, elle dit, tu fais ça, papa me voit. Et la même nuit, j'atterris dans son songe. Oh, calme-toi, faut rentrer. Amen. Mes frères, remplis ton cœur de témoignages. Cherche les témoignages. Va sur YouTube, enregistre, télécharge des témoignages, écoute-les, booste ta foi. Booste ta foi. Va sur YouTube, tu mets par exemple, tu dis témoignages des chrétiens que Dieu a délivrés des difficultés financières. Peut-être ta part, c'est les problèmes financiers. Tu écoutes. Ça te galvanise. Témoignage des frères que Dieu a délivrés d'une longue attente du fruit des entrailles. J'écoutais pour une dame. Elle n'avait pas d'entrailles. Elle est tombée enceinte. On est allé faire l'écho. Sur l'écho, on voyait une main qui tenait le bébé comme ça. Le fœtus. Et le docteur a dit, il ne comprend pas ce que c'est. Elle a dit, je sais, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui tient l'enfant dans sa main. Parce qu'elle n'avait pas d'entrailles. Ça n'existait pas. Elle est née sans entrailles. Pas parce qu'elle avait. Elle est née sans ça. C'était une déformation. Et Dieu lui a donné 4, je pense. Non. Il lui a donné 14. 14 enfants. De ses entrailles sans entrailles. 14 avec 3 fois, 2 fois les triplés. Frère, et tu pleures sur ta. Tu écoutes ça, tu sors, tu dis Dieu est fort. Tu arrêtes de pleurer sur ta situation. Toi au moins tu vois tes règles venir. J'ai prié pour une dame 14 ans sans voir ses règles. 14 ans. Le jour qu'elle s'est mariée, elle est entrée chez elle comme ça. Les règles ont pris la tangente. C'est passé par la fenêtre. Alléluia. Je tombe pas. Mais tu vois tes règles. Celle qui ne voit pas, elle fait comment? Donc chez elle, c'est deux hommes qui sont dans la maison. Son mari et elle, c'est deux hommes. Plus l'homme ne voit pas les règles. Elle aussi, elle ne voit pas les règles. Donc c'est deux gars. Alléluia. Deux gars. Oh. Que Dieu nous aide. Alors, cessez d'écouter les mauvaises nouvelles. Cessez d'écouter, oh non, si tu n'as pas encore accouché, il faut utiliser tel, il faut prendre tel produit, tu te puges avec. Si tu n'as pas, peut-être c'est ça. Laisse ça! Jésus est grand. Fais confiance au Seigneur. Son temps est le meilleur. Dis qu'au Lukuya, docteur, dis qu'au Lukuya que nous célébrons aujourd'hui. Il a fait 15 ans. 15 ans de mariage avant d'avoir l'enfant. 15 ans. C'est après 15 ans qu'il a eu son premier enfant. Oh, il priait, les femmes étaient enceintes. Il priait, les entrailles apparaissaient. Il priait, les enfants miraculeux naissaient dans son ministère. Mais Dieu a attendu 15 ans pour lui donner sa part. Et toi, tu paniques, tu pleures, tu veux rouler ta tête, tu veux au goudron. Je vous dis toujours ça. La voiture compte toujours au goudron. Alléluia. Il n'y a pas de goudron qui est fatigué d'avaler le sang des gens. Et si tu ne peux pas aller au goudron, il y a encore la place au vrille. Tu sautes, ça ne va pas remplir. Ça dit tu avales, avales, avales. Et si tu n'es pas fatigué, si tu es là-bas, ça ne va pas. On va à Kribi, c'est l'océan. Amen. C'est l'océan, il y a l'espace. Donc, remplis ton cœur de témoignages édifiants. Amen. J'ai prié pour une dame qui s'est mariée à 43 ans. Vierge. Vierge, 43 ans. Et en 3 ans, il a eu 4 enfants. Vous voyez comment Dieu a une manière de se moquer du diable dans nos vies. Et toi, tu as aidé le diable à se moquer de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour toi. Que ta foi se reconstruise. Que ta foi se structure. Au-delà des effets des attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Que ta foi devienne robuste. Au-delà des manipulations de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare une foi forte. Je déclare une foi forte. Je déclare une foi forte. Devant l'adversité, devant les situations, que la parole de foi soit libérée de ta bouche pour confronter l'ennemi au nom de Jésus. Comme David, que tu proclames devant les Goliaths, que tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Je viens contre toi au nom de l'Éternel, au nom de la parole de l'Éternel, au nom de la promesse de l'Éternel, au nom de Jésus.